Bonjour à tous. Suis donc effectivement, je m'appelle Pascal Guéry, je fréquente l'église de Nantes-Ouest, qui est située à l'ouest de Nantes, d'où le nom, je suppose. Et Jean-Charles m'a demandé si je pouvais enfin, venir apporter quelque chose aujourd'hui. Donc, j'espère pouvoir vous apporter quelque chose. Je me place devant vous, non pas comme quelqu'un qui sait mieux, mais simplement vous partager ce que, par rapport à ce que je peux vivre de mon côté, et puis partager ce qu'on peut, comment progresser ensemble devant notre Dieu. Voilà. Donc je vous propose de commencer à lire un passage dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. En général, je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de versets. Je vais me contenter de quelques passages, mais pour appuyer le point de départ. Donc, Philippiens chapitre 2, on va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, s'il y a donc quelques consolations en Christ, et s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion de miséricorde, rendez ma joie parfaite, étant en bonne intelligence, ayant une même charité, une même âme, un même sentiment. Ne faites rien par esprit de contestation, par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellent que lui-même. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier, mais aussi celui des autres. Ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous propose un deuxième passage dans la première épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 19. Car c'est une chose agréable à Dieu que quelqu'un, par un motif de conscience, endure des afflictions en souffrant injustement. Quelle gloire, en effet, vous reviendra-t-il si vous supportez patiemment d'être battu pour avoir mal fait? Mais si vous supportez parfaitement la souffrance pour avoir bien fait, c'est à cela que Dieu prend plaisir. Car c'est à cela que vous êtes appelés, puisque Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude, qui, outragé, ne rendait point d'outrage, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, et par la meurtrissure de qui vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retournés au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Quand on lit le Nouveau Testament, il y a des règles et on va dire des commandements du Seigneur qui sont régulièrement répétés. Il y en a un en particulier qui revient très souvent, qu'on connaît tous, qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même ou de s'aimer les uns les autres. Et si vous regardez attentivement dans le Nouveau Testament, le nombre de fois où il est dit aimez-vous ou aimez votre prochain ou soyez compatissants les uns envers les autres ou toutes sortes de conseils comme ça où il faut être humble vis-à-vis du prochain, etc. Ça revient très souvent, vraiment très souvent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis que je fréquente des églises, j'ai toujours été étonné du nombre de partition d'église, il y a une fédération, les choses comme ça. Et j'ai fait une recherche et je me suis rendu compte que c'est pas simplement dans le monde évangélique, quoique, mais dans le monde, dans l'histoire de l'église, on connaît tous qu'il y a eu le grand schisme en 1054 entre les orthodoxes et les protestants, mais avant il y avait déjà eu d'autres schismes. Et puis même parmi les orthodoxes, il y a ceux qui reconnaissent deux conciles, d'autres qui en reconnaissent trois, d'autres qui en reconnaissent cinq ou sept, je ne sais plus. Dans l'église catholique, il y a au moins 18 mouvements qui reconnaissent des chefs différents. Il y a les églises maronites, il y a les églises orientales, il y a énormément de, voilà, de divisions. Et puis parmi les protestants, je ne vais pas appuyer, mais on compte, il y a deux échelles en fait, on compte entre 15 000 et 30 000 mouvements. Donc voilà. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire de tous ces mouvements, c'est souvent lié à des conflits de personnes à la base. Et ça, c'est très dommageable. Mais on va pas refaire l'histoire. C'est ainsi. Seulement, entre chrétiens, ce que le Seigneur a demandé, c'est qu'on s'aime et qu'on soit soumis aux autres. Je dirais, peu importe l'étiquette qu'on nous met ou qu'on se met, peu importe. Mais c'est d'être vis-à-vis du prochain et d'autant plus vis-à-vis des chrétiens, ce que le Seigneur a demandé. Mais c'est là, en fait, où c'est compliqué. Chaque fois qu'un homme, qu'un mouvement veut faire un pas vers Dieu, chaque fois, il y a celui qui est appelé le diviseur qui se manifeste. Et il est d'autant plus fort que se loge dans notre cœur une certaine forme d'orgueil. Je vais vous expliquer un truc qui me concerne. Il y a quelques années, je m'étais dit, bon, il faut que vraiment je me donne un cadre, je me discipline sur la lecture, la prière, l'étude, etc. Et du jour où j'ai décidé ça, eh bien, ma fille ou ma femme avait beaucoup plus de besoins que moi. C'est-à-dire que je ne trouvais pas un moment où je pouvais être seul à étudier ou à prier ou des choses comme ça. Dès que j'avais un petit moment, et ça m'a posé question. Parce que finalement, je voulais m'approcher de Dieu, et il m'en empêchait. Ou alors le Seigneur, il n'avait pas envie que je m'élève moi-même dans une certaine connaissance ou une certaine piété qui aurait fait que ça aurait nourri un orgueil qui m'aurait éloigné des autres au final. Et donc, en lisant ces paroles d'aimer son prochain, c'est au moment où il a besoin d'aide qu'il faut être présent. Et la maturation spirituelle s'est faite par le fait de renoncer à m'élever moi-même dans la, on va dire, une certaine connaissance, une certaine piété, pour, j'ose pas dire m'élever, mais en tout cas progresser en aimant mon prochain, en faisant des actes d'amour, hein. pas simplement en le proclamant, mais en le vivant. Quand on a besoin, je suis présent. Quand ma fille avait besoin, parce qu'elle était petite, qu'elle voulait s'occuper, elle s'ennuyait, je laissais tomber et je m'occupais de ma fille. De même si ma femme avait besoin de moi, je laissais tomber et je m'occupais de ma fille. Et c'est ainsi que j'ai réalisé que parfois on veut progresser spirituellement, et un mouvement c'est pareil. Un mouvement, un groupe de chrétiens, et je dirais même, sans parler de mouvement, mais un groupe de chrétiens qui décide de progresser. Vous avez aussi, j'ai compris, des cellules de maison, des choses comme ça. Eh bien, directement, vous allez être, enfin, il peut y avoir des tentatives soit de division, soit des égos qui remontent, soit on n'arrive pas à faire exactement comme on veut parce qu'il y a une certaine opposition. Mais l'opposition n'est pas forcément, comment dirais-je, néfaste dans le sens où si on apprend à aller vers l'autre et à s'aimer les uns les autres, on progresse. Le sujet est important parce qu'en fait, le Seigneur, il souhaite, comment dirais-je, que l'union des chrétiens soit d'abord entre les chrétiens et après qu'on se tourne ensemble vers Dieu. Simplement un exemple, quand Jésus a appris à ses disciples à prier, comment il a commencé sa prière? Notre Père. Donc, notre. C'est d'abord le Père de nous. Ce n'est pas mon Père dans mon coin. C'est même pas Seigneur. Dans la Bible, beaucoup de prières commencent par Seigneur. Dans nos vies quotidiennes, beaucoup de prières commencent par Seigneur. Et Jésus, il a dit notre Père. Le Père est beaucoup plus proche que le Seigneur. Donc, notre Père, ça signifie qu'on a des frères et des sœurs. Et ça signifie qu'il y a une certaine intimité entre nous et le Créateur. Chaque fois qu'on oublie ça, en fait, eh bien, ça revient sur le tapis. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va vouloir s'approcher de Dieu par nous-mêmes, pour progresser nous-mêmes, en dépit des autres et sans les autres, eh bien, on va avoir tous ces petits grains de sable qui vont nous empêcher d'avancer. Je disais ça parce que j'ai connu, hélas, dans certains mouvements, des conflits personnels, enfin, des conflits interpersonnels. Et en fait, chaque fois que on décidait d'avancer simplement pour s'élever, chaque fois il y a l'opposition qui venait sous forme de quiproquo ou de bon, je vais pas dire jalousie, mais enfin c'est des trucs pas très glorieux quoi qu'il en soit. Et tant qu'on n'apprend pas à renoncer à nos propres droits, tant qu'on n'apprend pas cela, et ben ça revient tout le temps. Quand Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, c'est renoncer à vouloir se faire droit. L'être humain est ainsi fait que lorsqu'on subit un outrage ou une offense, on attend le châtiment ou au moins les excuses de celui ou de celle ou de ceux qui sont à l'origine de cet outrage qui nous a été fait ou cette offense. De même, si de notre côté, on pratique le bien et on fait du bien à quelqu'un, quelque part, on attend une reconnaissance ou un retour d'une façon quelconque. Parce que nous sommes des êtres finis. Et que quand on donne quelque chose, c'est un effort. C'est presque une souffrance. Si on grossit un peu les choses. Mais c'est quand même quelque chose qui sort de nous et qu'on fait pas d'une manière qui nous demande un effort. Et donc on attend un retour. Et le Seigneur, dans ce que nous avons lu, il nous apprend à renoncer à attendre un retour. Moi, une grande source d'inspiration de la relation entre êtres humains, c'est l'entreprise où je travaille. Et en fait, en général, le monde du travail. Parce que dans le monde du travail, on a un peu tout. Et on a des gens qui attendent tout le temps un retour. C'est-à-dire qu'ils travaillent, hein, ils font leur métier. Ils le font même bien. Mais ils attendent en plus de ce que le patron les paye à la fin du mois, ils attendent qu'on leur tape sur l'épaule en disant « t'as bien travaillé », des choses comme ça. Et certains le vivent très mal, parce qu'en fait, du point de vue du patron, la tape sur l'épaule, c'est le salaire, point barre. C'est rien de plus que ça. Faut pas, le monde du travail, c'est un contrat, tu fais ça, je te donne ça, point barre. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de business, hein, on ne parle pas de choses comme ça. Et beaucoup, enfin, j'ai rencontré beaucoup de gens qui souffraient de ça, de se dire, avec tout ce que j'ai fait quand même, ou des gens qui se donnent beaucoup pour l'entreprise, puis le lendemain, enfin, jour au lendemain, on ferme l'agence, machin, on ne vous connaît plus. Et ça, c'est en train des souffrances. Et dans le cadre de nos relations à l'intérieur des églises, on peut être tenté de la même chose, c'est-à-dire de jamais faire les choses, entre guillemets, gracieusement. On donne, on se donne, on fait, et on vit très mal quand on nous passe à côté sans même nous regarder. C'est ce que nous avons à apprendre. C'est ce que nous avons à apprendre. Deux choses. D'abord, renoncer. C'est-à-dire que on croit avoir, enfin, on a donné, mais on n'attend rien en retour. On s'en remet à celui qui juge justement. Et d'une. Mais deuxièmement, si on regarde notre frère, notre sœur comme plus élevé que nous-mêmes, on aura l'envie d'aller le voir pour le remercier. Et pas forcément de choses, prendre soin les uns des autres. C'est important aussi parce que j'ai lu un texte récemment sur le qui commentait le serment sur la montagne. Et chaque fois que je lis ce texte de Jésus, je me dis quand même qu'il met la barre très haut. Et ce commentaire disait, le serment sur la montagne, en fait, c'est une espèce d'idéal inatteignable. Mais donc, il ne faut pas chercher à l'atteindre. On peut le voir ça comme ça. On peut voir aussi le fait que, du fait que ce n'est pas accessible, en tout cas tout seul, on a peut-être besoin des frères et des sœurs pour nous faire la courte échelle. Et que le nôtre dont on parle, c'est de s'encourager les uns les autres. Alors, pour cela, c'est dit comme ça, c'est très théorique. Et ça ne se fait pas aussi simplement que ça. Pour pouvoir grandir les uns grâce aux autres, il faut déjà une certaine... comment on appelle ça ? Affinité les uns avec les autres. Il y a des gens avec qui on est bien, il y a des gens avec qui on est moins bien, ou des gens avec qui on s'ouvre et d'autres avec qui on ne s'ouvre pas. Il ne faut pas chercher à être complètement transparent pour tout le monde, ce n'est pas possible. On est des êtres humains, on a des fois même dans les couples des choses qu'on n'ose pas dire. Mais être suffisamment en confiance avec quelques personnes, et des fois une ou deux personnes, ça peut permettre aussi de progresser. Parce qu'on se soutient l'un l'autre dans la prière. Et ça, c'est quelque chose de dans le texte qu'on a lu aujourd'hui concernant le fait de renoncer à soi-même et de progresser dans l'exemple que Christ nous a laissé. Je ne pense pas que quiconque puisse y arriver tout seul. On est des êtres humains très limités. Et donc, nous avons besoin les uns des autres pour progresser. Nous avons besoin des prières les uns des autres, mais je dirais d'une manière un petit peu, pas d'une manière générale, on peut prier de manière générale pour toute l'assemblée, mais des fois il est bon que deux personnes se mettent d'accord pour prier pour une chose. Si je vous dis ça, c'est parce que Jésus l'a dit lui-même. Quand il parle de l'Église, Jésus il met le niveau à deux personnes. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez que dans le monde juif, on ne peut pas prier en dessous d'un certain quorum. Il faut être 10. Et pas 10 personnes prises au hasard. Attention, c'est 10 personnes instruites qu'on fait des écoles rabbiniques. Tel point qu'un grand monsieur dans le monde juif, un certain Maïmonide, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un docteur du 16e siècle, qui vivait à Cordoue et qui avait son pendant musulman qui s'appelait Averroès. Ces deux grands messieurs qui ont mis en ordre un certain nombre de choses, entre autres Maïmonide, il a vraiment organisé le culte judaïque sur beaucoup de points et beaucoup influencé ce culte. Et bon, pour des raisons historiques, il a quitté Cordoue, il est allé au Maroc, de Maroc, il est allé à Jérusalem. Et là, il a voulu prier, mais il n'y avait pas le quorum. Ils étaient moins de 10 personnes instruites pour pouvoir prier. Et il est parti après au Caire, où il a monté une grande synagogue. Eh bien, Jésus, il met le quorum à deux. Deux personnes. Si là où deux ou trois seront réunis à mon nom. Et il dit aussi autre chose. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, je le ferai. Et dans le sermon sur la montagne, il y a cette parole. Demandez et on vous répondra. Cherchez et vous trouverez. Si nous souhaitons avancer avec Dieu, si nous souhaitons progresser avec Dieu, on n'a pas besoin d'être 50. On peut se mettre d'accord à deux. Quand je dis 50, je veux dire, on a besoin de se rassembler en assemblée, mais comme je disais, l'intimité de partager certains sujets, ça peut se faire que vraiment en tout petit comité et des gens de confiance. Et ça peut être fulgurant, le fait de prier pour un sujet, se mettre d'accord à deux, et d'avoir la conviction que le Seigneur, il ne dit pas de parole en l'air. S'il nous a dit ça, c'est que c'est vrai. On parlait tout à l'heure de prononcer des paroles et pas être vraiment affermi dans le fait qu'on les croit réellement, parce que bah, le quotidien fait que des fois, on ne comprend pas que ça ne marche pas exactement comme on souhaite. Mais vraiment. Ce qu'il faut, ce à quoi on est appelé, c'est vraiment se soutenir les uns les autres dans ce genre de progression dans la parole de Dieu et dans la croissance spirituelle par le fait de prier ensemble. Il est dit dans Paul dit aux Corinthiens que dans un couple, le confesseur, enfin le confesseur, si je puis dire, ou du moins le confident de l'un ou de l'autre, c'est pas forcément le mari de la femme ou la femme du mari. Il dit vous pouvez prendre un temps à part pour prier, puis vous retrouver ensemble. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas partager de manière large, mais ce qui est sûr, c'est que si on veut progresser, on a besoin et du frère et de la sœur, et du Seigneur. Le Seigneur, parce qu'il a donné une parole sûre, et on peut s'appuyer dessus avec foi et avec certitude. Et de un frère et une sœur, parce qu'on a besoin de la courte échelle. Et ce faisant, l'Église existe par elle-même, sans tout ce fatras d'organisation humaine qu'on a rajouté. Ça peut être très simple, ça peut être vraiment juste des connaissances, ça peut être... Enfin, je suis des fois très très inquiet de tout ce... Je peux dire ce décorum, mais toute cette lourdeur qu'on se rajoute sur les églises, qui épuise ceux qui les prennent en charge et qui découragent d'autres, et on passe à côté d'essentiel. Pour revenir au début de mon message, quand je vous ai dit les 15 000 ou 30 000 mouvements qu'il y a dans le monde évangélique, juste un point. Le Seigneur, il nous a enseigné deux choses, enfin beaucoup plus, mais deux choses particulières qu'on pratique dans les églises. Le baptême et la Sainte-Cène. Regardez dans le Nouveau Testament, il n'y a pas tant de versets que ça qui parlent de ces deux choses. C'est rappelé régulièrement parce que ça fait partie de ce que le Seigneur nous a enseigné et ça fait partie aussi de ce que les chrétiens pratiquent depuis le début. Il n'y a pas tant de versets que ça. Et pourtant, ces deux points particuliers ont été des sources de conflits terribles au sein des églises. Comment pratique-t-on le baptême ? Par immersion, de l'eau versée, de machin, de trucs, où on baptise des enfants, des adultes. Regardez le Nouveau Testament. On a des témoignages de gens qui sont baptisés, mais jamais le Seigneur il a dit il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. Par contre, ça a été un sujet de dispute, de haine et de conflit dans les églises. Par contre, le fait de s'aimer les uns les autres, ça s'est répété tout le temps. Il n'y a pas eu tant de livres que ça sur ces versets-là. Par contre, les livres expliquant que le baptême comme ci ou le baptême comme ça est mieux, il y en a eu à foison. Et vous voyez, on se fait détourner, parce que ça, clairement, c'est une attaque maligne. C'est pas, ça fait progresser personne, ce genre de choses. Si ce n'est de dire, moi je suis baptisé mieux que toi, parce que, enfin, alors je vous parle du baptême, mais la Sainte-Cène, on pourrait en sortir des... Et il y a plein de sujets comme ça, qui ne sont pas forcément très détaillés dans le Nouveau Testament, mais qui sont des sources de conflits, parce que justement, elles ne sont pas détaillées. Par contre, ce qui est détaillé, et qui, pour le coup, est vraiment important, on passe à côté. L'histoire d'avaler le chameau et de filtrer les bouchons. C'est un petit peu ça qu'on fait. Revenons au fait de nous approcher de Jésus, simplement, en se soutenant les uns les autres. Et ce genre de conflit, alors, je ne dis pas qu'ils seront gommés, parce que probablement, ils ne le seront jamais. Mais cela dit, si on veut progresser, on ne peut pas progresser seul. On peut progresser qu'avec un frère et une sœur, les frères et les sœurs et le Seigneur. Et surtout, ne pas chercher à progresser pour s'élever au-dessus de nos frères et nos sœurs. Chercher à progresser pour aimer encore mieux notre prochain. Et ce n'est pas une simple affaire. C'est vraiment contre notre nature d'aimer son prochain. Autant s'aimer soi-même, en général, on maîtrise assez bien. Et pourtant, Le Seigneur nous dit une autre chose, dans la prière toujours que nous enseigne Jésus. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce pardon, ça revient aussi au fait de renoncer. Renoncer à se faire justice. S'en remettre, comme dit Pierre, ce que Jésus faisait, il s'en remettait à celui qui juge justement. Est-ce que Jésus a été aigri? Qu'est-ce qui s'est passé quand il a été mis sur la croix? Qu'a-t-il dit comme prière? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je ne pense pas que Jésus a voulu laisser une phrase historique comme ça. Ça sortait, quand il a enseigné « Aime ton prochain », c'était vraiment « Aime ton prochain » jusqu'au bout. Et quand bien même les gens qui étaient à le crucifier, c'était des ennemis d'Israël, d'un côté les Romains, d'autre côté les pharisiens auxquels il avait tout le temps été opposé et qui manifestaient une véritable haine à son égard, il les incluait dans cette prière. Et troisièmement, le peuple qui l'avait accueilli avec tant d'emphase quelques jours plus tôt, crucifié, criait à sa crucifixion lui aussi. Et parmi tous ces gens-là, le Seigneur, la seule chose qu'il leur a dit, c'est « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et bien souvent, on ne sait pas ce qu'on fait, nous, non plus. On agit plus par instinct que par quelque chose de vraiment raisonné, même au sein de l'Église. Sachons rester humbles. J'ai lu dans un texte que l'humilité, c'était ne pas être surpris de notre propre faiblesse. C'est-à-dire, je chute, je ne suis même pas surpris parce que je sais à quel point je suis défaillant, à quel point l'être humain est tombé très bas. Il ne s'agit pas de se complaire dans notre faiblesse, il ne s'agit pas de ça. Mais quand on repense à la prière du pharisien et du publicain, il y en a un, il était sûr de lui-même, même s'il disait « Merci Dieu de m'avoir fait bien mieux que les autres ». Mais cela dit, il aurait été très surpris peut-être de chuter. Et l'autre, il ne se faisait aucune illusion sur ce qu'il était. Et il demandait quoi à Dieu? Il demandait d'être pardonné. Et pourquoi il voulait être pardonné? Parce qu'il voulait progresser. Vraiment, c'est l'état d'esprit que je vous engage à entretenir les uns avec les autres et tous ensemble devant Dieu. Je vais m'en tenir là, parce que c'est beaucoup. Et puis, je vais juste finir en priant. Seigneur, je te prie que tout d'abord tu dis qu'il y ait peu de personnes qui parlent et chaque fois que je suis amené à parler, je suis effrayé parce que il est vite fait de dire des âneries ou de dire de son propre fond plutôt que s'appuyer sur ta parole. Je te prie Seigneur que les âmes qui ont entendu ce que j'ai dit retiennent que ce qui est bon et rejettent le reste. Et Seigneur, je te prie vraiment que dans chacun d'entre nous, tu crées ce désir de progresser, cet esprit nouveau et ce cœur contrit, et cet esprit bien disposé dont parle David, cœur pur, esprit bien disposé, et un cœur contrit. Seigneur, tu es toujours près de ceux qui ont le cœur contrit, de ceux qui sont conscients de leur faiblesse et qui ont besoin d'aide. Tu as toujours répondu à ceux qui s'approchent de toi avec un tel état d'esprit. Et Seigneur, j'ai confiance qu'il n'y a aucune raison que ça change et qu'il n'y a aucune âme ici présente qui ne peut s'approcher de toi et avec un cœur contrit sans que tu lui répondes. Seigneur, je te prie vraiment que ton souffle passe sur nos âmes et que tu crées en nous ce désir ardent de te rechercher et de s'approcher de toi et de nous aimer les uns les autres comme tu l'as enseigné. En nom de Jésus. Amen.